Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Le jour de la Pentecôte arrivé, les disciples étaient tous réunis en un même lieu, lorsque soudain vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils demeuraient. Et ils virent paraître des langues séparées comme du feu qui se posa sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le jour de la Pentecôte. C'est le dimanche de la Pentecôte. C'est aujourd'hui que se réalise et se manifeste l'œuvre de rédemption accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ et promise par Dieu le Père, à nos premiers parents après la chute. Ceux qu'il a élus, il les a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ et il en a fait un seul corps, celui de son Fils, de son même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corps n'est pas vivant tant que le Saint-Esprit n'est pas envoyé. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ en croix a prononcé ces paroles, tout est accompli, et effectivement, tout était accompli, tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nécessaire pour la rédemption des élus a été accompli, de telle sorte que le Christ n'avait plus rien à faire. Maintenant, il se trouve que, donc, il est mort, il est ressuscité, il est resté pendant 40 jours avec ses apôtres pour les enseigner, et même pendant ces 40 jours, les apôtres, certains avaient des doutes au début, certains ne comprenaient pas, ils pensaient qu'il allait venir rétablir en leur temps le royaume d'Israël. Il fallait qu'il s'en aille, car il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. De telle sorte que, nous avons vu le dimanche dernier que les disciples, par la grâce de Dieu, sont demeurés extrêmement fidèles au commandement de notre Seigneur de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre le don du Saint-Esprit. Et 10 jours plus tard, après 10 jours de préparation, le Saint-Esprit leur a été envoyé, ce qui fait que si l'Église est née du côté percé par la lance de Saint-Longin de notre Seigneur, elle est apparue et elle s'est manifestée au monde en tant que ce corps parfait lors de l'effusion du Saint-Esprit. L'Église est cette société parfaite, elle est cette société des croyants, plus elle est la nouvelle création. Il y a un grand mystère dans la manifestation de l'Église, dans la création de l'Église, un mystère qui dépasse le mystère de la création de la création telle que nous la connaissons, telle qu'elle est marquée par la chute. Toutes les nations, toutes les langues, le genre humain dispersé à Babel est rassemblé par l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. Par la prédication de l'Évangile, désormais, les apôtres devaient se répandre dans le monde et convertir le monde à la vraie foi, jusqu'à aujourd'hui où la foi s'étant affaiblie et la charité refroidie, il ne reste plus qu'un très petit nombre de chrétiens, mais il y en aura jusqu'à la fin du monde, et notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Notre Seigneur dit ceci. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme l'affirme le Credo. C'est le Père qui l'envoie et c'est le Fils qui est la raison de cet envoi. Le prophète Ézéchiel, et nous l'avons entendu hier dans les prophéties de la vigile de la Pentecôte, le prophète Ézéchiel a vu dans une vision les eaux desséchées de la maison d'Israël gisant dans une vallée. Et Dieu lui a commandé de parler 2 fois. La première fois pour rendre les conditions de la vie à ces eaux desséchées. Et il a dit qu'il voyait tous ces eaux se ranger les uns auprès des autres, chacun à sa jointure, et la chair croître sur ces eaux. De telle sorte que ces eaux, qui étaient autrefois des squelettes disloqués, sont devenues une grande armée. Et Dieu lui a dit de parler une deuxième fois à ces eaux. et d'invoquer le Saint-Esprit qui vienne des quatre coins de la terre afin qu'il emplisse ces corps et qu'il les rende vivants. Et ces corps sont devenus vivants. Eh bien, mes très chers frères, c'est l'image de l'incarnation et de la Pentecôte et du don du Saint-Esprit. Dans un premier temps, notre Seigneur est mort pour faire de nous des êtres susceptibles de recevoir la vie divine. Autrefois, nous étions comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie, dit le prophète. Nous étions morts, et non seulement nous étions morts, mais nous étions des ossements desséchés qui n'avaient même plus la forme d'un squelette, qui étaient des os éparpillés dans la nature. Voilà ce que nous étions avant d'être baptisés. Voilà comment naît l'homme dans sa condition actuelle, dans sa condition naturelle. Il naît monstrueux, il naît disloqué, il n'est même pas un cadavre. Il est quelque chose qui n'existe plus, alors même qu'il commence à exister. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu et il a donné son sang pour ses brebis. De telle sorte que nous qui étions, comme je viens de le dire, autrefois sans pasteur, sans âme, sans corps, le Fils de Dieu nous a formés, reformés à son image. C'est par le sang de notre Seigneur que nous avons été ramenés à la vie et nous sommes devenus véritablement ce que nous devons être, c'est-à-dire des êtres humains. Mais il fallait que le Christ s'en aille après avoir tout accompli et qu'il nous envoie du ciel le Saint-Esprit afin que nous qui étions les membres de son corps, nous devenions des membres vivants, vivifiés. Et c'est pour cela que, de son corps, et c'est pour cela que Saint-Esprit est appelé le vivificateur. Entre autres choses, il est appelé le vivificateur. Un corps ne peut être sans âme. Sans l'envoi du Saint-Esprit, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ aurait été stérile, d'une certaine manière. Alors, ne nous arrêtons pas à cette considération, parce qu'il ne peut pas y avoir d'œuvre de rédemption accomplie par la deuxième personne de la Très Sainte Trinité sans l'œuvre de vivification accomplie par la deuxième. Mais si, par impossible, notre Seigneur avait versé son sang pour nous, était mort, était ressuscité et était remonté au ciel, notre situation aurait été, c'est impossible, mais si ça avait été possible, si ça avait été le cas, notre situation aurait été terrible. C'est-à-dire que nous aurions été d'une certaine manière rachetés par son sang, mais nous serions demeurés livrés à nos propres forces. De telle sorte que la loi de l'Évangile que nous devons mettre en pratique pour être sauvés, car sans les œuvres la foi est morte, comme nous aurions été dans l'impossibilité de la pratiquer, nous serions morts aussitôt que nés, et nous aurions été doublement damnés, parce que nous aurions été non seulement damnés à cause du péché originel, mais aussi à cause de notre apostasie du corps mystique du Christ. D'une certaine manière, cela peut nous sembler monstrueux ce que je viens de dire, mais d'une certaine manière, c'est la religion des Pélagiens. Le Christ vient, il donne une grâce suffisante aux hommes, il les régénère par le baptême. Le baptême, on n'en a pas vraiment besoin parce que d'une certaine manière, parce que l'homme n'est pas marqué par le péché originel, mais disons d'une certaine manière, le baptême est quelque chose qui nous donne une impulsion de départ. Et à partir de là, il faut faire des efforts parce que Dieu nous a tout donné pour que nous vivions une vie à sa gloire. Il y a beaucoup de phrases vraies dans ce que je viens de dire, mais il y a aussi des phrases totalement fausses, et il y a aussi des phrases qui sont de la témérité. Bien sûr que sans le baptême, nous ne pouvons pas être sauvés. Bien sûr que sans l'œuvre du Christ, nous serions restés marqués par le péché originel et incapables d'être sauvés. Mais la régénération ne fait pas que nous donner une impulsion à nos forces physique, nos forces charnelles en quelque sorte, nos forces humaines. La régénération a fait de nous des corps capables de recevoir un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc, si par impossible, nous avions été rachetés par le Christ, mais nous n'avions pas reçu le Saint-Esprit, notre condition aurait été pire que celle de l'Adam déchu, de l'homme qui naît et qui n'est jamais baptisé. Notre condition aurait été celle d'une impuissance radicale. Mais, grâce soit rendue à Dieu, le corps ne peut pas être sans âme, l'œuvre du Saint-Esprit ne peut pas ne pas suivre l'œuvre du Christ. Et c'est le Christ lui-même qui, retourné au ciel, nous envoie son esprit, ou le Père l'envoie au nom du Fils, ce qui revient à peu près au même, de telle sorte que la participation à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ayant donné forme humaine, alors qu'autrefois nous n'avions pas forme humaine, elle soit maintenant une forme humaine vivifiée et qui rende gloire à Dieu par les œuvres de sa vie, qu'on appelle la vie chrétienne. La participation à la mort et à la résurrection du Christ n'est pas un exemple moral, n'est pas une allégorie, évidemment, n'est pas quelque chose qui nous est donné pour que nous nous en inspirions. C'est la puissance de la régénération pour la vie divine. Or, il faut rien moins que Dieu pour vivre de la vie de Dieu. Je vous dirais même, il faut être Dieu pour vivre de la vie dont vit Dieu. Vous allez dire, est-ce que cela ne va pas trop loin ? Ne minimisons pas le baptême, mes très chers frères. N'ayons pas un regard méprisant pour le baptême qui serait une sorte d'étiquette que le bon Dieu colle sur nous. Le baptême, ce n'est pas simplement le fait que nous soyons arrachés à l'empire du diable, ce n'est pas simplement le fait que nous participions à la vie et à la mort et à la résurrection de notre Seigneur, ce qui est déjà très grand. C'est le fait que nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes moins nous-mêmes que le Christ. Le Christ est Dieu, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, et il est le Fils éternel de Dieu, de telle sorte que le baptême, en nous incorporant au corps mystique du Christ, fait que nous sommes plus réellement le Christ que nous ne sommes nous-mêmes. Le Christ, qui est le Fils éternel de Dieu, dont nous sommes les membres, est animé de la vie divine, cela va sans dire puisqu'il est Dieu. Mais nous sommes quand même des créatures qui, sous un certain rapport, il est vrai, nous distinguons du Christ. Nous ne sommes pas univoquement le Christ. Il y a un seul Christ, et c'est le Fils éternel de Dieu, le Fils de la Vierge Marie, et nous sommes les enfants de nos mamans respectives. Voyez ? Donc, comment participer à la vie divine ? La réponse, vous la connaissez, c'est en recevant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils, est l'amour mutuel du Père et du Fils. Saint Augustin, notre Père Saint Augustin, dit que le Saint-Esprit procède pour être donné. Nous n'allons pas approfondir les mystères des processions divines. Disons que si le Saint-Esprit procède du Père, sa destination est d'être donné au Fils. Et s'il procède du Fils, c'est pour être restitué au Père. Cet amour mutuel du Père et du Fils, qui est la troisième personne de la très sainte Trinité, nous est donné en ce jour. Et pour vous qui allez recevoir, mes très chers frères, qui allez recevoir le sacrement de confirmation, il va vous être donné sacramentellement, de telle sorte que vous allez recevoir une plus grande portion du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on en a moins quand on est simplement baptisé, mais enfin, le sacrement de confirmation ne nous est pas donné pour être quelque chose qui ne sert plus ou moins à rien. Vous allez recevoir le Saint-Esprit d'une manière que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent. Vous allez recevoir une double portion du Saint-Esprit, si l'on peut dire. Le Saint-Esprit vous a été donné au baptême, bien entendu, et mais en union avec l'œuvre spécifique du Christ. Le baptême, c'est la mort et la résurrection dans le Christ. Et maintenant, bien sûr, si nous sommes arrivés à la Pentecôte, c'est que le Christ nous a donné un ordre, nous l'avons obéi, et maintenant, grâce au Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Mais dans la Pentecôte, il y a quelque chose de spécifique au Saint-Esprit. C'est la vivification. Et le sacrement, en quelque sorte, le sacrement qui découle du mystère de la Pentecôte, c'est le sacrement de confirmation. Le Saint-Esprit, donc, procède pour être donné. Le Saint-Esprit nous est donné, non pas à nous individuellement, mais déjà à nous tous, membres du corps du Christ, du corps mystique du Christ, de telle sorte que nul ne peut recevoir le Saint-Esprit pour ses fins propres, et c'est là toute l'erreur de Simon le magicien, qui a voulu avoir le Saint-Esprit pour continuer à faire ses pratiques de magie, et vous connaissez sa fin. Nous recevons le Saint-Esprit parce que nous sommes membres du même corps, de même que ce sont tous nos membres qui reçoivent l'air qu'aspirent les poumons, si j'ose dire. De même, ce sont tous les membres du corps du Christ qui reçoivent le Saint-Esprit par le biais de la confirmation. C'est pour ça qu'il est bien, il est louable d'être confirmé. Le Saint-Esprit nous vivifie, nous qui sommes déjà membres du corps mystique du Christ. Il nous vivifie de telle sorte que si par le baptême nous ne sommes plus nous-mêmes, mais nous sommes le Christ, avec le Saint-Esprit, maintenant nous allons pouvoir porter les œuvres du Christ et que notre lumière va pouvoir luire devant les hommes afin qu'ils glorifient notre Père, Dieu notre Père, au jour de sa visitation, comme dit notre Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous est donné, vous l'avez compris, mes très chers frères, n'est pas une sorte de vitamine qui nous permettrait d'être de meilleurs chrétiens, une sorte de complément alimentaire qui nous permettrait d'être plus en forme. Il est notre vie. Il est notre vie, il est celui qui nous vivifie, de telle sorte que l'on puisse dire, même si c'est un peu une approximation, le Saint-Esprit est comme l'essence de la grâce que Dieu nous donne. On dit souvent, et à juste titre, sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Oui, la grâce, en réalité, la grâce dans le genre grâce, il y a toutes sortes de choses. Il y a des grâces que reçoivent même les païens, ce sont ces petites grâces, par exemple le fait qu'il pleuve sur les bons comme sur les méchants, de telle sorte que même le cultivateur païen arrive à faire pousser ses fruits et légumes par la grâce de Dieu. C'est une grâce, mais ce n'est pas une grâce qui sert au salut. Et puis il y a des grandes grâces, qui sont des grâces sensibles, des grâces de consolation, qui sont spécialement données aux chrétiens, mais qui peuvent être un piège, parce qu'on peut s'y attacher et perdre de vue Dieu. Et puis il y a la grâce sans laquelle nul ne peut être sauvé, et par laquelle nous sommes sauvés, et c'est véritablement le Saint-Esprit. C'est une grâce incréée, c'est une grâce qui vient, qui nous vivifie et qui fait que nous sommes plus en Dieu qu'en nous-mêmes, comme disent un certain nombre de mystiques. Le Saint-Esprit, donc, est comme, en quelque sorte, l'essence de la grâce. Combien de grâces, mes très chers frères, restent stériles parce qu'elles sont proportionnées à notre concupiscence ? Nous recevons quelque chose qui nous fait plaisir, nous recevons une grâce de Dieu qui nous donne un certain bien-être, et il nous semble que c'est tout ce que le bon Dieu a à nous donner, et notre concupiscence s'en empare, et lorsque Dieu veut nous donner une grâce plus grande mais moins sensible, eh bien nous nous imaginons que Dieu est méchant avec nous et qu'il nous abandonne. Vous voyez, mes très chers frères, c'est cette grâce du Saint-Esprit dont nous avons besoin, de telle sorte que nous pourrions même dire « Seigneur, ne me donnez aucune autre grâce que la grâce qui est le Saint-Esprit. » Mais nous devons recevoir toutes les grâces que Dieu nous donne, et nous devons faire très attention à ne pas être téméraires. Mais si nous devons demander à Dieu une grâce, que ça soit le Saint-Esprit. Donnez-nous, donnez-moi le Saint-Esprit, donnez à mes frères le Saint-Esprit, donnez à moi aussi le Saint-Esprit. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terre. Envoyez votre esprit et il se fera une nouvelle création et vous renouvellerez la face de la terre. C'est le verset de l'Alléluia. Envoyez votre esprit et creabuntur et ils seront créés. Les nouvelles créatures que nous sommes ne sont plus de ce monde-ci, mais du monde de Dieu. Alors vous allez dire, est-ce que ce monde-ci n'est pas le monde de Dieu ? Oui, bien sûr, c'est le monde de Dieu. Mais d'une certaine manière, c'est un monde déchu, c'est un monde dans lequel règne aussi l'influence du malin. Le monde déchu, c'est notre ancienne patrie. Le monde de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle création, c'est notre nouvelle patrie qui est à la fois l'exemplaire de ce monde déchu, de telle sorte que lorsque nous vivons ici-bas, nous vivons vraiment chez notre Père Céleste, et nous ne vivons pas chez Satan. Satan n'est jamais qu'un, que Dieu nous garde de ses influences, mais n'est jamais qu'un rebelle qui parcourt le monde pour faire le mal, mais nous sommes chez Dieu, chez notre Père Céleste. Donc, le monde dans lequel nous vivons, est, même s'il est déchu, est le monde de Dieu, puisque nous vivons dans ce monde qui est le monde tel que Dieu le veut. Le monde tel qu'il est actuellement, tel qu'il est déchu, n'est déchu que parce qu'il est rebelle à la volonté de Dieu. Lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, par l'action du Saint-Esprit en nous, par l'action de la grâce en nous, alors nous faisons partie de ce monde tel que Dieu le veut, et nul ne peut nous nuire. Voilà l'assurance, une des grandes assurances du chrétien, une des grandes promesses que le chrétien doit garder avec lui comme une arme, comme un viatique. Vous voyez ? Notre Seigneur nous dit qu'il nous donne sa paix, qu'il nous laisse sa paix, qu'il nous donne sa paix. Je vous la donne, dit-il, non pas comme le monde la donne. Comment le monde donne-t-il sa paix? Eh bien, il donne une paix qui flatte nos concupiscences et qui mène à la mort. Vous savez qu'il y a trois concupiscences, l'orgueil de la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Le monde, en apaisant ses concupiscences, même en leur donnant, disons, d'être apaisés d'une façon relativement raisonnable, sans excès, etc., confère une sorte de paix qui n'est pas la paix que le Christ donne. Le monde donne une paix qui mène à la mort. Le Christ donne sa paix de telle sorte qu'elle nous fonde en Dieu au-delà du monde et de sa corruption. La piété pure et sans tache, dit saint Jacques, consiste à visiter les veuves et les orphelins et à s'abstenir des souillures du monde. Voilà la piété pure, voilà l'insertion dans le monde de Dieu, voilà la paix que Dieu nous donne. Et il nous dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. Le Christ nous donne sa paix et il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Si le monde nous donnait sa paix, il ne rajouterait pas que votre cœur ne se trouble pas parce que sa paix serait à usage et à effet immédiat. Le monde nous donne sa paix, c'est-à-dire que nous avons ce que nous voulons et nous sommes contents et bien sûr nous n'allons pas nous mettre à trembler. Lorsque le Christ nous donne sa paix, mes très chers frères, il nous dit, lorsque vous recevrez cette paix, que votre cœur ne se trouble pas comme des gens qui sont parcourus par l'idée qu'ils ne sont pas dans la paix. Le monde nous donne une paix de type subtil ou spirituel en nous laissant croire que nos velléités sont des désirs qui plaisent à Dieu. Que les œuvres de la volonté propre, dans la mesure où elles se disent chrétiennes, sont agréées par Dieu. Eh bien, mes très chers frères, c'est une illusion. Celui qui désire Dieu ressent la crainte de sa nature qui se révolte contre la logique de la vie divine. Celui qui désire la paix de Dieu connaît le trouble parce que cette paix telle que Dieu la donne, telle que le Christ la donne, n'est pas une paix telle que le monde la donne. Vous voyez, il y a quelque chose de relativement étonnant, un peu mystérieux sans doute, dans le sacrement de confirmation, c'est qu'au moment où l'évêque trace le croix, ou juste après qu'il ait tracé la croix avec le Saint-Crème sur le front, il donne un soufflet à la personne. Alors, souvent, liturgiquement, c'est une sorte de... On ne s'en rend même pas compte si on n'est pas au courant parce que c'est tout petit. Des fois, on le donne un petit peu plus fort. Normalement, il est prévu qu'on nous donne une claque en bonne et due forme. Une claque, et alors, on dit, c'est curieux. On dirait que, comme dirait un mondain, ça commence bien. À peine on vient de recevoir le Saint-Esprit que déjà on prend des claques. Effectivement, c'est exactement ça que nous expliquent certains auteurs liturgistes qui expliquent ce sacrement, cette liturgie de ce sacrement. En réalité, la paix telle que le monde la donne est une paix qui nous fait plaisir à nous tels que nous ne sommes pas le Christ, c'est-à-dire tels que nous étions autrefois avant d'être baptisés. Lorsque Dieu nous donne ce caractère, ce qui vient d'imprimer en nous, en plus de celui du baptême, qui est le caractère de la confirmation, il nous prive immédiatement de toute satisfaction humaine, dans le sens où, nous disent certains auteurs, il nous apprend que désormais, nous allons devoir faire encore plus face aux affronts. Déjà, lorsque nous étions chrétiens, baptisés, il nous semblait que le monde était contre nous. Mais maintenant que nous sommes confirmés, nous allons voir le monde être encore plus enragé contre nous. Pourquoi ? Parce que les ténèbres détestent la lumière. Vous voyez, mes très chers frères, donc lorsque l'évêque nous donne une gifle, en réalité un soufflet, une claque, il nous dit « apprenez à recevoir les gifles et à tendre l'autre joue ». Apprenez à recevoir les injures du monde sans vous irriter, sans vous choquer, sans vous énerver contre Dieu, mais en regardant à ce caractère qui est désormais le vôtre et qui est n'est autre que la marque du Saint-Esprit en vous. Ne vous effrayez pas, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. On pourrait se dire, après avoir reçu l'onction et reçu ce soufflet, cette gifle, on pourrait commencer à s'effrayer en se disant « qu'est-ce que j'ai fait ? Le monde va me haïr encore plus maintenant que je suis confirmé, qu'il voit le Saint-Esprit en moi d'une façon encore plus visible, encore plus claire, comme si j'avais tous les jours de ma vie une flamme, une langue de feu sur la tête, et partout que j'aille. » Mes très chers frères, conservons cette langue de feu au-dessus de notre tête, et conservons aussi cette parole divine qui sort de nous sous la forme des bonnes œuvres que nous devons faire. N'éteignons jamais le Saint-Esprit. Lorsque nous commençons à nous effrayer de la vie chrétienne, alors notre cœur se trouble et il nous semble que nous n'avons pas reçu la paix du Christ. Et pourtant le Christ nous donne sa paix. L'homme charnel, nous dit un auteur, se trouble et se désespère quand on lui ôte les biens charnels dans lesquels il se repose et dans lesquels il trouve sa paix. Le cœur du chrétien conserve sa tranquillité et sa paix, lors même que notre Seigneur Jésus-Christ lui est ôté, c'est-à-dire sa présence et sa consolation sensible. En même temps qu'il nous donne son esprit, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne sa paix. Et son esprit vient comme un vent impétueux. Il est dit dans l'Épître, lorsque soudain vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient. Et ce n'est pas un phénomène subjectif, puisque les Juifs pieux qui étaient à l'extérieur sont venus en masse pour voir s'il y avait eu un accident, s'il y avait eu quelque chose. Vous voyez ? C'est le Saint-Esprit qui est tombé sur les apôtres. C'est un vent impétueux. L'état moribond de beaucoup de chrétiens, nous disent les auteurs, vient de ce qu'ils ne font guère d'efforts pour être exacts dans l'obéissance à la loi divine. Pourtant, notre Seigneur nous dit ceci, « Si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Si nous sommes moribonds, si nous nous traînons comme une limace, c'est que, en vérité, nous ne faisons pas tous les efforts que nous pouvons pour obéir à la loi de ce Dieu que nous aimons. Et quelle est-elle cette loi ? Eh bien, elle se résume par la loi de la charité, aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme nous-mêmes et ses ennemis parce qu'il nous le commande. Et puis c'est les 10 commandements et tous les devoirs spéciaux polarisés par nos divers devoirs d'État. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La méditation et la pratique de la parole de Dieu, mes très chers frères, est absolument fondamentale pour le chrétien, parce que comment pouvons-nous savoir ce que veut de nous ce Dieu que nous aimons et qui nous aime, si nous ne méditons pas sa volonté dans sa parole ? Et comment l'aimer si nous ne savons pas qui il est, si nous ne méditons pas qui il est dans sa parole ? Méditer la parole et la pratiquer contre soi-même, combattre contre les diverses concupiscences qui sont en nous, voilà comment on vérifie que l'on aime véritablement Dieu. Notre Seigneur dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » En réalité, le Père, Dieu le Père, n'aime que son Fils, n'aime que Dieu le Fils. Obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est être Jésus-Christ. Si notre Père Céleste nous aime, c'est parce que nous ne sommes pas différents de son Fils. Et son Fils est l'objet de toutes ses complaisances. Et ensuite, il ajoute, « Et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » S'il y a des paroles qui sont dignes d'être adorées dans l'Écriture sainte, elles le sont toutes évidemment, mais que nous devons garder gravées en lettres d'or dans notre esprit, c'est bien ceci. Celle-ci, nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Le Père, le Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, viennent dans le cœur de celui qui aime Dieu et qui aime le Christ et qui garde ses commandements. L'inhabitation de Dieu, la très sainte Trinité, en nous n'est possible que par la manifestation d'œuvres dignes de Dieu, c'est-à-dire par l'amour. C'est une sorte de cercle vertueux. Si nous aimons Dieu et que nous méditons sa parole, nous allons produire des œuvres à la gloire de notre Père. Notre Père nous aimera parce qu'il nous a aimés dès le commencement, et il viendra habiter en nous avec le Fils et le Saint-Esprit. Si nous ne faisons pas les œuvres de la foi, ce n'est pas que le Père se détourne de nous immédiatement, mais ça veut dire que nous nous refroidissons de plus en plus, et que nous sommes comme un charbon retiré du feu, qui redevient de rouge et rougeoyant et brillant qu'il était, il redevient une sorte de masse noire et salissante. Que faut-il faire pour que le charbon redevienne ardent? Il faut qu'il se replace dans le feu. Comment se replacer dans le feu, c'est-à-dire comment retrouver le Saint-Esprit, mes très chers frères, une fois qu'on l'a perdu? Eh bien, premièrement, c'est en ayant conscience que nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, mais que nous sommes membres du corps mystique du Christ. Donc une des premières choses et une des choses les plus fondamentales que nous devons faire quand nous avons perdu le Saint-Esprit par le péché, par la négligence, que sais-je, c'est de prier pour nos frères. Cela peut paraître étrange parce que ça serait plutôt nous qui avons besoin de qu'on prie pour nous. Mais justement, si nos frères font la même chose que ce que je viens de dire, ils prient pour nous. Et si nous prions pour eux, nous nous détournons de la noirceur que nous sommes pour désirer le feu que nous étions. Si nous prions pour nos frères, nous demandons à Dieu d'avoir à nouveau une place parmi nos frères, parmi les membres vivants du corps mystique du Christ. Si nous ne prions pas pour eux et que nous nous concentrons sur nous-mêmes, même sur nous-mêmes en tant que pauvres pécheurs négligents qui a perdu le Saint-Esprit, qui devrait le retrouver en priant beaucoup, nous allons finalement désirer le Saint-Esprit pour des grâces, pour l'expérience de grâces sensibles qui finalement ne servent que notre concupiscence. Détournons-nous de nous. Si nous sommes tentés d'une certaine manière, prions pour ceux qui sont tentés de cette manière-là. Si nous sommes loin du Saint-Esprit, prions pour ceux qui sont loin du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous disons « Notre Père qui êtes aux cieux » et non pas « Mon Père, voyez, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ». Il faut prendre conscience que par le sacrement du baptême, et spécialement le sacrement de la confirmation, nous sommes des membres réels du corps mystique du Christ, et que s'il se trouve que nous pouvons parfois déchoir pour une raison ou pour une autre, nous devons désirer non pas recevoir la grâce que nous avons perdue, mais retrouver notre place dans le corps mystique du Christ, qui est irrigué par la grâce du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est l'âme même du corps mystique qu'est l'Église. Invoquer le Saint-Esprit, mes très chers frères, c'est agir en vivant. N'aimons pas la mort, c'est-à-dire notre volonté propre, notre amour propre, notre concupiscence. N'aimons pas la mort, mes très chers frères. Supplions le Saint-Esprit, spécialement durant cette octave. Supplions le Saint-Esprit afin qu'il vienne nous vivifier et que nous ne mourions pas, mais qu'il nous vivifie pour que nous puissions vivre pour Dieu dans la charité fraternelle, dans l'obéissance au commandement de Dieu, en général et en particulier, et dans cet amour de Dieu sans lequel nous ne pouvons rien, sans lequel nous ne sommes rien. Prions le Saint-Esprit, mes très chers frères, durant cette octave, prions le Saint-Esprit afin qu'il vienne vivifier ceux qui auront reçu le sacrement de confirmation, qu'il vienne vivifier aussi ceux qui l'ont reçu il y a plus longtemps, et qu'ils viennent assister tous les chrétiens afin que nous puissions ne faire plus qu'un dans l'amour de Dieu et que tous ensemble nous puissions avoir accès un jour, avec la grâce de Dieu, à la béatitude éternelle où nous vivrons parfaitement unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.